Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Trafic de drogue à la Pablo Escobar, argent sale, violence inouïe, menace d'enlèvement du ministre de la Justice, obligé de rester caché et sous haute protection. Non, vous n'êtes pas en Colombie, mais bien en Belgique. À Anvers, la situation est devenue intenable. Ces 10 derniers jours, on ne parle plus que de ça dans le pays. Bonjour Laura Van Lerberg.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Belgique. Le port d'Anvers, c'est 12 millions de conteneurs par an, du pain béni pour les dealers. Entre 2013 et 2021, les saisies de cocaïne ont été multipliées par 14. Laura, vous y êtes rendue pour Europe 1 avec un guide bien particulier, un ancien trafiquant, membre d'une bande dont le business a été évalué avant sa condamnation à 700 millions d'euros. Reportage.
Le rendez-vous est donné vers 9h sur le port d'Anvers. Il le connaît sur le bout des doigts. 30 ans en tant que trafiquant de drogue, en prison pendant 12 ans, sorti il y a tout juste 3 ans. La cigarette à la bouche, les verres de lunettes légèrement bleutés. Dès les premières secondes, Paul Meyer se montre loquace.
J'ai commencé très jeune et c'est devenu de plus en plus grand. La police m'a attrapé avec 80 tonnes, mais toutes les 5 semaines, nous faisions 20 tonnes.
Pour autant, il n'a rien oublié. À bord de sa voiture, direction le quai de déchargement. Le port s'étend sur plus de 129 km², une surface plus grande que la ville de Paris. À chaque terminal, des panneaux défense d'entrée, aucune caméra, seules quelques dizaines d'employés qui ne remarquent pas notre présence.
Comment c'est possible que nous puissions conduire ici? C'est interdit et pourtant j'accède au bateau.
Des conteneurs à perte de vue et des marchandises de tout type rangées dans des hangars.
Si je veux faire quelque chose, je sais quelle compagnie c'est et je peux voir où je peux acheter ces produits, mettre quelque chose dans ces produits et laisser le bateau me l'amener.
Après 15 minutes, toujours aucune remarque des agents, Paul Meyer discute avec l'un d'eux.
Le port est-il étanche?
Et pour les trafiquants, s'attirer leur service est presque devenu monnaie courante.
Sont-ils corrompus? Je dis toujours qu'ils sont humains. Les bénéfices sont énormes dans la cocaïne.
À Anvers, le trafic de cocaïne est estimé à 50 milliards d'euros par an. Florence Angelici, porte-parole du service public fédéral des finances et de la douane.
C'est un port très vaste, très étendu et difficile à surveiller. Il y a une grande demande en Europe. La cocaïne qui est vendue en Europe est vendue plus cher que dans d'autres pays.
Mais seuls 2% des conteneurs sont vérifiés par an. Pour renforcer les contrôles, le gouvernement prévoit un investissement de 70 millions d'euros.
L'enquête incroyable de Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 en Belgique.
Il est 8h04 sur Europe 1. Les habitants, les élus locaux l'attendaient depuis longtemps. Démantèlement ce matin du campement de consommateurs de crack de la Villette.
Évacuation définitive selon Gérald Darmanin qui l'a annoncé sur Twitter. Voilà un an que ces craqueux zonaient dans ce quartier de Paris, William Molinier.
Oui, c'est ce qu'on appelle le square de Perceval, lieu emblématique du 19e arrondissement où 300 à 400 toxicomanes se livrent au trafic et aux violences. Un millier de policiers déployés pour cette opération de maintien de l'ordre. Le 19e arrondissement de Paris a vu s'enquister cette problématique du crack avec des consommateurs qui ont occupé l'espace public. Place de Stalingrad, puis le long du périphérique surnommé la colline du crack, puis dans les jardins des halls avant d'y être délogés et de s'installer donc dans ce square de Perceval. Les riverains ont systématiquement manifesté pour protester contre la délinquance afférente à ce trafic. Le nouveau préfet de police Laurent Nunez a été chargé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de mettre un terme une fois pour toutes à cette problématique essentiellement parisienne. C'était une promesse du gouvernement, démanteler ce campement en moins d'un an. Toute la difficulté est qu'il ne se reconstitue pas ailleurs. Le crack étant à Paris une affaire de longue date, les premiers toxicomanes sont apparus dans la capitale dans les années 90.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, 8h05, au chapitre santé maintenant, une découverte qui pourrait révolutionner le traitement du cancer.
Et soulager les quelques 350 000 personnes soignées par chimiothérapie en France avec des traitements non plus administrés en intraveineuse, mais plus simplement sous la peau, moins encombrant, moins invasif. C'est en tout cas ce que suggère une étude publiée hier dans une revue scientifique américaine. Yasmine Akatou.
S'injecter une chimiothérapie comme un diabétique s'injecterait de l'insuline sans avoir un petit boîtier implanté sous la peau relié en permanence à une veine. Pour cela, les scientifiques ont modifié un principe actif pour lui permettre de passer dans le sang sans stagner sous la peau. Julien Nicolas, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'étude.
On a modifié en fait ce principe actif, on l'a accroché à une chaîne de polymères. Donc un polymère, c'est une macromolécule. Ce conjugué, principe actif polymère, va être soluble dans l'eau, va migrer migrer du tissu sous-cutané vers la circulation sanguine, comme pour une chimiothérapie classique injectée par voie intraveineuse, mais nous, on sera passé par la voie sous-cutanée.
Cette découverte faciliterait l'accès à la chimiothérapie et améliorerait le confort des patients.
Le geste est simple, exécuté, il n'y a pas besoin de personnel qualifié ni d'infrastructures spécialisées, il n'y a pas besoin a priori d'hospitalisation. Laisser les patients chez eux leur permettre de recevoir leur traitement à domicile par une simple injection sous-cutanée, par une infirmière par exemple, ça pourrait être un gros progrès.
Julien Nicolas et d'autres chercheurs espèrent récolter 2,5 millions d'euros pour commencer les essais cliniques d'ici 2 ans.
Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
Dans l'actualité internationale, un monstre des mers de 337 mètres de long nommé Gerald Ford, les États-Unis mettent à l'eau leur 11e porte-avions.
Son nom, c'est celui du 38e président américain et il a une ambition, montrer la puissance militaire des États-Unis, impressionner ses rivaux. Alexis Guilleux, ce bâtiment dépasse tout ce qu'on avait vu jusqu'ici en termes d'équipement et d'investissement.
Oui, et ce navire a coûté 13 milliards de dollars et il emmène avec lui quelques bons technologiques par rapport à ses petits frères, les 10 autres porte-avions américains de la classe Nimitz, à commencer par des catapultes électromagnétiques qui propulsent les avions à un rythme plus soutenu. Cela permettra d'augmenter le nombre de décollages de 25%. Des technologies de pointe également avec des ascenseurs géants pour déplacer les munitions à bord. L'USS Gerald Ford produit 3 fois plus d'électricité que ses prédécesseurs, ce qui lui permet de transporter des armes de nouvelle génération, gourmandes en énergie, ce qu'on appelle les AED, armes laser ou électromagnétiques, des dispositifs qui n'utilisent pas de projectiles et qui renforceront globalement la puissance de combat de ce mastodonte, 335 mètres de long et pouvant peser jusqu'à 100 000 tonnes. Le commandement des forces navales américaines loue des capacités létales sans rivale. Alors certes, l'USS Gerald Ford est déployé avec 2 ans de retard, mais il permet aux États-Unis d'afficher leur avance technologique sur la Chine et la Russie. Actuellement, le navire n'est pas prêt au combat. Il part pour plusieurs semaines d'exercice dans l'Atlantique avec des pays de l'OTAN.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Voilà, des porte-avions démesurés au stade de foot climatisé. Il n'y a qu'un pas.
Et oui, la Coupe du Monde au Qatar démarre dans un peu plus d'un mois. Et en France, de plus en plus de villes ont déjà prévu de la boycotter. Dernière en date, Toulouse, Rennes, Brest, Tours, qui dénoncent le scandale humanitaire mais aussi écologique de cet événement. Pas de quoi choquer pour autant le Conseil olympique d'Asie. Johan Tritz, il a validé hier la tenue des Jeux asiatiques d'hiver en 2029 en Arabie Saoudite.
Et oui, vous ne rêvez pas, on parle bien de compétition de ski, hockey sur glace et patinage en plein désert. Des infrastructures inexistantes à ce jour vont donc sortir de terre. Des pistes de ski sur les hauteurs des monts Sarawat à 2600 mètres d'altitude avec gros canons à neige, engins surpuissants pour refroidir l'atmosphère et autour de ça une ville de 170 km d'une superficie aussi grande que la Belgique, appelée Neom avec building, l'arc artificiel, centre commercial luxueux. Coût de l'opération, 500 milliards de dollars. Un projet porté par le prince héritier Ben Salman qui hérisse les poils des associations. Il dénonce la catastrophe écologique à venir. Le promoteur parle, lui, de respect de l'environnement en redéfinissant le tourisme de montagne.
Johan Tritz, un mot de football en plein air cette fois, mais sans public. Hier soir, l'OM s'est imposé à huis clos 4-1 face au Sporting Portugal. Première victoire en Ligue des Champions que les Marseillais devront confirmer mercredi en match retour. Ce soir, le PSG affronte le Benfica Lisbonne, match de Ligue des Champions donc à suivre en direct sur Europe 1 dès 21h.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal dans